Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
...12h45 dans le bureau de Par Jupiter.
On va à la cantine ?
Ah non, j'ai pas le temps.
Ah, moi je suis à la bourre.
Ah ben ça évidemment, vous avez passé la matinée devant les obsèques de Chirac.
Ah c'est pas vrai, moi j'ai quand même travaillé.
Bon, eh ben je vais chercher des sandwichs. Alors, je prends les commandes.
Alors moi je voudrais un sandwich, mais sans cadavre d'animal mort.
Ok, un sandwich végétarien.
Voilà, alors moi pareil, mais sans gluten s'il te plaît.
Ok, donc un sandwich sans pain, une salade quoi.
Ouais, alors sans tomate surtout.
Non mais ça n'existe pas, les salades sans tomate, ça n'a pas de sens.
Attends, j'ai changé d'avis, moi je veux bien une tarte aux légumes, mais sans glyphosate.
De toute façon, glyphosate, il y en a partout, je te dirais.
Ouais, c'est vrai, on peut plus rien manger aujourd'hui,
c'est
vrai.
C'est comme le sucre,
c'est comme le
sucre,
la
sanitaire. Il y en a partout.
C'est impossible.
Je sais pas quoi manger.
13h45, dans le bureau de Par Jupiter.
Bon, je recommence. Un sandwich sans cadavre d'animal mort.
Oui,
un sans gluten,
ça,
un sans glyphosate.
Oui.
Vous voulez peut-être qu'on fasse vérifier vos déjeuners par Foodwatch ?
Food quoi ?
Foodwatch.
C'est quoi ?
On reçoit la directrice aujourd'hui, Karine Jacquemart.
Oui, tu sais, c'est l'ONG qui se bat pour une alimentation saine.
Oh là, ça sert à rien, c'est foutu de toute façon. Ça, c'était avant Lubrizol, Greta Thunberg, Captain Igloo.
Il paraît qu'ils ont des maladies à Rouen, déjà.
Ah oui, des enfants à trois bras, j'ai vu ça.
Et des tomates ont des oreilles.
Ah oui,
non, mais Karine, on va avec oreilles, des tomates, ça n'a pas de sens.
15h45, dans le bureau de Par Jupiter.
Bon, tu sais quoi, Juliette, je vais juste prendre des frites, voilà. Parce que les frites, au moins, on sait ce qu'il y a dedans, c'est de la patate.
Ouais, alors moi aussi, je vais prendre des frites, moi.
Ouais, des frites. Ah ben, vous savez quoi ? Vous allez en bouffer des frites.
Ouais !
Mais demain,
hein ?
Parce que là, tout est fermé, il est 15h45.
Mmh. Ouais, bon, finalement, ne pas manger du tout, c'est encore ce qu'il y a de plus sain. Hein.
Bonjour la France Inter et bienvenue dans la start-up de la future ORTF dont voici la devise du jour, mieux vaut squeezer la deadline que jamais. Voici l'ordre protocolaire des sujets. L'État multiplie les messages rassurants après l'incendie de Rouen. La Suisse est très bon pour les légumes, mais c'est quand même mieux de ne pas les récolter. Le préfet de Seine-Maritime a aussi une solution pour mettre les vaches à l'abri.
En les abritant au fond de galeries de mines de profondeur suffisante, la radioactivité ne pénétrerait pas dans ces puits d'environ 300 ou 400 mètres. Voilà.
Deux ONG demandent aux politiques de rendre public leur agenda pour dévoiler le rendez-vous avec les lobbies. Transparency France et le WWF exigent la transparence.
Les lobbies laitiers
sont en train de nous la mettre.
Les scientifiques sont formels. Avoir le seum, c'est la voie rapide pour la maladie et la mort. Cette étude est bien ennuyeuse pour les Belges, mais aussi pour les Français qui trouvent tant de charme au pessimisme, au cynisme, aux gens qui râlent.
J'ai aucune raison d'être particulièrement gay. Hein, je suis un être humain, je suis pas un animateur. Il y a qu'à la télévision qu'on voit des gens éclater de rire à longueur de temps, là, comme des crétins.
Du coup, on n'ose pas éclater de rire, mais on a envie.
Et voici celle qui connaît le tiercé gagnant de la chronique du jour.
C'est Juliette Arnoux.
C'est Juliette Arnoux.
Mais oui, c'est vrai que je l'ai en plus. Alors, c'est un tiercé qui va commencer avec celui qui écrit pour le Bureau des légendes, la série des espions, et dont je soupçonne qu'il détient des secrets d'État qu'il distille discrètement dans ses chroniques. Soyez attentifs, voici Hippolyte Girardot.
Oui, ben voilà. Effectivement, tout sera codé tout à l'heure.
Oui, bon, comme d'habitude, quoi. A priori.
Exactement. Bien vu, Guillaume Meurice.
Ensuite, nous aurons notre lanceur d'alerte personnelle qui jour après jour. C'est vrai que ça pourrait le faire.
Chabot, ouais. Essentiellement.
Qui jour après jour nous informe sur les plus grands scandales du siècle, notamment le premier d'entre eux, les gens sont cons. Guillaume.
Bonjour à tous. Ben évidemment, je vais rendre hommage au grand homme avec les Français, Jacques Chirac. C'était le plus grand des voleurs, mais.
C'était un type sympathique.
Eh oui, comme tous les voleurs en fait, les bons voleurs quoi.
Et enfin, si aucun homme n'est une île, cette femme-là est un îlot de résistance à elle seule. Sa bataille la plus célèbre, ne jamais céder aux assauts d'Alex Vizorek. Voici Clara Dupont-Monod.
Oui, bonsoir Juliette, ce fut une longue bataille. On va parler d'absurde bien sûr, absurde.
Très bien.
Et voici celle qui jouera les perturbateurs de l'actualité. Je vous laisse nous dire qui vous êtes. Vous êtes...
Karine Jacquemart.
Yes.
On a vérifié ça.
Charline Vanhoenacker, Juliette Arnaud.
Par Jupiter.
Bienvenue Karine Jacquemart. Vous êtes directrice générale de Foodwatch France. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez d'abord travaillé sur le terrain, notamment avec Action contre la faim. Vous avez rejoint Greenpeace en 2009 et depuis 3 ans, vous dirigez Foodwatch France, un contre-pouvoir citoyen 100% indépendant
et lanceur d'Arlette, comme Boris. Foodwatch France, créé en 2002 suite au scandale de la vache folle. Le but est de faire la lumière sur les pratiques des industries agroalimentaires et des distributeurs. On va commencer par un cas pratique, alors, pour comprendre comment vous travaillez, quel est votre but. Cas pratique, l'affaire du bouillon Knorr. C'est sorti dans la presse la semaine dernière. Vous vous attaquez au bouillon cube, à l'huile d'olive Puget, parce que c'est pas de l'huile d'olive, c'est surtout de l'huile de palme. Mais alors, comment se fait-ce ?
Alors effectivement, c'est dans le cadre de la campagne Arnaque sur l'étiquette de Foodwatch. Donc on traque, on enquête et on dénonce les pratiques abusives de l'industrie agroalimentaire, notamment quand ils racontent tout et n'importe quoi sur les emballages pour faire plus vendre, évidemment. Mm-hmm. Et parfois, c'est assez grave parce que ça a un impact sur la santé, on y reviendra certainement. Mais là, c'était juste quand même pour dire ça suffit, faut quand même pas exagérer.
C'est-à-dire vous vous baladez au supermarché ?
Absolument.
Vous regardez cette petite boîte de bouillon Knorr qui a l'air tellement bucolique avec ses petites herbes, ses olives noires, etc. Vous analysez le contenu du cube et qu'est-ce que vous voyez ? Qu'il y a 2% d'huile d'olive.
Oui, c'est ça, on fait la différence entre le paquet et ce qu'il y a réellement. Alors, il y a des gens aussi, il y a 200 000 personnes qui suivent Foodwatch et qui nous envoient de plus en plus les arnaques qu'eux-mêmes ils découvrent. Donc ça, mm-hmm. c'est assez intéressant. On a même créé un site pour ça. Donc là, tout simplement, ce bouillon, c'est très simple. Il s'appelle bouillon aux herbes et à l'huile d'olive. Il y a deux fois Puget avec une belle bouteille d'huile d'olive Puget dessus.
On leur fait un peu de pub. Donc,
et il y en a.
N'achetez pas, c'est de la
justement,
merde.
On leur écrit en leur disant, peut-être vous avez envie de plus faire ça. En fait, il y a 2% de cette huile d'olive et, oui. Et l'ingrédient qui vient en numéro 2, c'est de l'huile de palme. Et ça, ils ne s'en sont pas vantés. Ouais. Il y a également marqué sans conservateur, histoire de vous dire, alors côté additif, ne vous inquiétez de rien, mais de rien, de rien, de rien. Alors qu'en fait, à l'intérieur, il y a un additif controversé pour la santé. Il y a du basilic et des olives, alors qu'ils ne sont pas dans la liste d'ingrédients. Voilà, c'est ça. Et surtout, il y a un bon petit sucre ajouté comme on aime, parce qu'un bouillon salé, ce serait dommage que ça ne soit pas sucré-salé. On aime bien ça, quoi.
Ah oui, bah alors,
donc, en fait, ça raconte n'importe quoi.
Ça appartient à un mastodonte mondial qui s'appelle Unilever.
C'est ça.
Comme énormément de marques. Alors, comment est-ce que vous, Karine Jacquemart, à Foodwatch et les 200 000 personnes qui reçoivent la newsletter, qui vous suivent, etc., font pour embêter Unilever et leur dire, dis donc, mon coco, t'arrêtes de nous prendre pour des truffes?
Il y a plein de façons. La première, c'est de communiquer, effectivement, parce que le plus gros problème, c'est l'opacité et l'impunité. C'est-à-dire que tant qu'ils continuent à faire ces pratiques, mais que personne les dénonce, ils vont continuer. Donc là, finalement, en faisant le travail, nous, de révéler ces scandales, de révéler ces enquêtes et de le mettre, on va dire, sur la place publique avec un pied dans le plat, déjà, ça leur fait un petit peu drôle parce que leur talon d'Achille, c'est David contre Goliath. Mais le talon d'Achille, c'est quoi ? C'est l'image de marque. Donc ça, c'est une première chose. Après, on utilise des outils comme les pétitions. Là, on a lancé une pétition pour dire à Knorr, en fait, ça suffit. Donc, soit vous changer l'emballage pour que ce soit cohérent avec les ingrédients, soit vous changez les ingrédients, mais genre les deux, ils ne matchent pas.
Mais alors la pétition, c'est un peu spécial, c'est pas simplement mettre son nom, c'est-à-dire que vous avez un système qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un signe la pétition, il y a le patron qui reçoit un mail, c'est ça. Vous trollez en fait.
Ouais, absolument. Et donc en fait, chaque personne qui signe la pétition, ça envoie un message. Et donc en fait, c'est comme si ça faisait toc-toc à sa porte en disant « Ouh, tu sais, on t'a dit, on t'observe et on va plus te laisser faire, donc maintenant il faut rendre des comptes. » Et donc c'est cette pression permanente qui fait que ça les oblige à changer. Et ça marche.
Ouais. Juliette ?
Alors moi, j'ai une question. À part dans le sel, dans quoi il n'y a pas de sucre ?
Franchement, j'ai pas la réponse. On continue de chercher, en fait, mais on n'a toujours pas trouvé. Non, en vrai, le sucre ajouté, c'est un vrai problème de santé publique, même dans les légumes verts. Même quand on croit bien faire, on achète des légumes verts pour ses gamins, et en fait, on retourne, et très souvent, il y a du sucre ajouté. C'est un vrai problème parce que c'est un problème de santé publique. Et si on prend cet autre exemple...
Vous avez amené une boîte de biscuits.
Pardon, parce que je sais qu'on aime bien tous le petit ourson de Lulu.
Ah oui, le petit ourson.
Voilà. De la marque Lulu. Ouais.
Voilà, donc c'est Lulu. Donc
mais qu'est-ce qui se passe dans
c'est
les
c'est l'autre gros mastodonte qui s'appelle Mondelez. Et donc c'est Lulu, le petit ourson. Et donc on a un emballage qui est avec, il y a de l'herbe, il y a un ourson trois fois sur l'avant. Il y a
c'est
un petit
mignon.
Ourson. Il y a un petit ourson qui jongle avec ses petites jambes toutes mignonnes, avec une jolie fraise bien rouge, tout ça.
Et alors
donc c'est très sympathique. Et bien ça, c'est une bombe de sucre. Donc un tiers du produit, c'est du sucre. Et surtout, le problème, c'est que cette marque, typiquement, c'est le genre de marque qui refuse d'utiliser le logo nutritionnel Nutri-Score, dont vous avez peut-être entendu parler, qui va de A à E pour informer les consommateurs d'un coup d'œil sur la qualité nutritionnelle des produits. Eux refusent, voilà, tout simplement. Par contre, ils aiment bien faire du marketing qui cible les enfants avec ce petit ourson, alors que nous, on demande l'interdiction du marketing qui cible les gamins pour les produits trop gras, trop sucrés, trop salés.
Bon voilà, vous avez outé l'ourson, c'est horrible.
Est-ce que vous avez celui qui a déconné. Hein.
Bah oui, non, mais c'est clair.
C'est lui qui a commencé.
Est-ce que vous avez déjà obtenu des victoires à Foodwatch? Qu'est-ce qu'on peut mettre à votre crédit avec cette manière d'être vigilant et d'alerter?
Oui, bien sûr, on y arrive par la mobilisation citoyenne, on y arrive justement en continuant comme ça, en ne lâchant jamais, en mettant des coups de projecteur sur ces scandales. Mais par exemple, sur cette campagne arnaque sur l'étiquette, il y a eu plusieurs changements. On avait ciblé Bonduelle, par exemple, qui avait une belle poêlée avec une nappe Vichy à carreaux rouges et blancs sur son emballage. Donc c'était...
Alors qu'il n'y a pas de nappe dans les produits Bonduelle.
Alors que justement, il n'y avait pas de nappe, c'est exactement ce qu'on a dénoncé. Merci Juliette, vous avez tout compris. Et en fait, il jouait sur le marketing des légumes
en conserve.
Justement, il jouait sur le marketing traditionnel, alors qu'en fait, dedans, il y avait plusieurs additifs, dont deux additifs controversés pour la santé. Eh bien, on a réussi, là, ça y est, ils ont changé l'emballage. On va communiquer dessus, d'ailleurs, très prochainement. Mm-hmm. Je vous le donne en exclusivité. Oui, ils l'ont changé. Oui, ils ont enlevé les additifs. Il y avait également le Yoplait avec de la gélatine de bœuf. Et on avait fait toute cette campagne l'année dernière, vous en avez entendu parler, sur les dérivés d'animaux cachés.
C'était pas des abricots, alors?
Finalement, non, ils ont confirmé, après beaucoup de pression. Et là encore, on leur a dit, écoutez, c'est simple, en fait. Soit vous informez les gens, soit vous enlevez cette gélatine de bœuf. Eh bien, ils l'ont enlevée.
Encore une victoire de Foodwatch.
Voilà, ça c'est simplement sur la question de la transparence. Bien mais sûr. Évidemment, il y a beaucoup d'autres combats en lien sur l'alimentation et la santé.
On vous renvoie bien sûr au site de Foodwatch France, puisque Karine Jacquemart est en notre compagnie. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, à renseigner Foodwatch, à mener vos enquêtes, par exemple. Suce au bouillon Kupner sur France Inter.
Taillot.
Softly through my window today. Could have tripped out easy, but I've changed my way. It'll take time, I know it, but in a while you're gonna be mine, I know it. We'll do it in style, 'cause I made my
Donovan, Sunshine, Superman. De qui parle-t-il? Dit pas les Girardeau de Guillaume Meurice.
Je pense que c'est plutôt Chiara Lubomono.
Moi, je sais que Sunshine Superman était une femme.
C'est ce que je dis, c'est Clara. Voilà. Vous êtes peut-être notre invitée, Karine Jacquemart, qui est avec nous, qui est directrice générale de Foodwatch France, et qui vient nous dire que les oursons de luxe, c'est pas bon, il y a trop de sucre.
C'est de la merde.
Mais ouais. Et le bouillon Knorr aussi, et puis les yaourts avec des fruits, c'est pas des fruits dedans.
C'est de la langue de bœuf.
Pour entourer
entourée, Karine Jacquemart.
Eh bien, Hippolyte Girardot, ben, oui. Guillaume Meurice, et pour finir, Clara Dupont-Monod.
Bonsoir. Voilà, et avant de continuer à parler des saloperies qu'on bouffe, à Rouen et partout en France, place à l'information.
Que retenez-vous de Jacques Chirac ?
C'est bien sûr la très forte présence de Chirac dans les guignols de l'info.
Le journal de presque 17h17.
Enfin, depuis quelque temps, ça marchait bien. Il arrive, ça rate.
Et on commence par les titres.
Oui, dans ce journal, on évoquera donc les hommages à Jacques Chirac qui se multiplient.
Oui, il laissera un grand vide à l'image de son mandat.
On parlera aussi de Rouen et des conséquences de l'explosion.
Oui, il laissera un grand nuage de suie à l'image de nos poumons.
Ce sera aussi question d'Éric Zemmour et de la convention de la droite.
Il laissera un grand tas de fumier à l'image de son cerveau. Ouais. Et on commence donc avec les obsèques de Jacques Chirac.
Oui, les hommages se poursuivent et les témoignages de ses proches se multiplient. L'AFP a interrogé son boucher, qui a déclaré, je cite, « Quand il passait me voir, il s'arrêtait boire une bière et même deux ».
Bel hommage. Et ne ratez pas ce soir sur LCI le témoignage de son proctologue, qui a déclaré, je cite, « Il avait un bon fond ».
Que de témoignages poignants, n'est-ce pas?
Oui, c'est le quatrième jour après la mort de Chirac et dans les médias, on commence à manquer d'angle pour aborder le sujet, ça se sent. Heureusement, dans ce cas-là, on peut toujours compter sur BFM TV et Bernadette Chirac qui nous raconte la fameuse histoire de l'omelette.
J'avais dit à mon mari, mais écoutez, qu'est-ce qu'on va faire pour le dîner? Est-ce que vous voulez aller au restaurant? Ou est-ce que vous voulez... Bon, j'ai mis quelques provisions dans le... Ah, bah, ce soir, vous allez faire la cuisine, moi je préfère rester là, très bien. Catastrophe. Je prends des œufs et je me dis, ça, une omelette, c'est facile. Je prends ce qu'il faut pour faire l'omelette.
Oh, le suspense de malade. Alors, restez avec nous dans quelques instants. La suite de l'histoire palpitante de l'omelette de Chirac, racontée par Bernadette.
Et oui, en effet, Rouen, à présent, oui. Le gouvernement promet la transparence totale après l'incendie.
Oui, et d'expérience, on sait que lorsque une phrase contient les mots « gouvernement promet » et « transparence », on peut être vraiment tout à fait rassuré. Oui,
cœur avec des métastases.
Politique, à présent.
La convention de la droite organisée par Marion Maréchal Le Pen s'est concentrée sur le grand remplacement.
Et vu l'étage moyen, l'âge moyen, pas l'étage moyen, vu l'âge moyen des participants, il devrait en effet pas tarder à être grand remplacé par des vers de terre.
Musique à présent, Maître Gims, c'est le premier rappeur français à remplir le Stade de France.
Et Patrick Bruel est le premier chanteur français à remplir...
Non, ça suffit les blagues sur Patrick Bruel.
Ah d'accord, parce que moi je voulais en faire à chaque fois qu'il y a une nouvelle plainte en fait.
Mais non parce qu'on n'aura pas le temps, hein. On n'aura pas le temps, alors on passe à l'agenda.
Attendez, vous voulez pas la suite de l'anecdote de l'omelette par Bernadette?
Alors
je résume l'épisode précédent, Bernadette doit faire une omelette à Jacques Chirac. Allez, on y va.
Je m'enferme dans la cuisine. Seulement, je bats mes œufs avec les coquilles.
Ah, non.
Vous voyez ?
Mais qui fait ça ?
Hein ? C'est redoutable. Et alors, bon, je lui ai mis du beurre chauffé dans la poêle, je renverse ça dans la poêle et je me dis, quand même, c'est une drôle d'allure.
Allez, j'en garde un petit peu pour la suite, parce que voilà, il y a un suspense vraiment qui monte, c'est Hitchcock qu'on ressuscite. Allez, on passe à l'agenda de la semaine.
Demain, mardi, la Tour Eiffel s'illuminera en rose pour Octobre Rose, le mois de sensibilisation au cancer du sein.
Et le reste de Paris est toujours aussi dégueulasse, en hommage au cancer de la prostate.
Mercredi, Mireille Mathieu sort un nouvel album intitulé Cinéma. Ce sont des reprises des grandes chansons du 7e art.
Ah, c'était finalement pas si mal le cinéma muet.
En effet, vendredi, ce sera la journée mondiale du sourire.
Une journée difficile pour Michel Houellebecq et Mylène Farmer.
Allez, c'est la fin de ce journal.
Tout le monde est comme des dingues, la fin de l'anecdote.
D'accord, oui, évidemment.
Allez,
évidemment.
On y va, attention, c'est parti.
C'est bizarre, il y a des montagnes partout, pointues. Alors évidemment, avec ma fourchette, je me suis dit, évidemment, je les ai battus les œufs avec les coquilles, ça donne le résultat. Donc je suis allée le chercher, il m'a dit, bon, c'est pas très brillant. Hein.
C'est pas très brillant, comme le niveau de l'information en France.
Et là, on est soulagés pour les frais de bouche, hein, parce que quand on les laisse faire tout seul la cuisine,
risque de pas se
nourrir du tout. 17h26 sur France Inter, en compagnie de la directrice générale de Foodwatch France, Karine Jacquemart. On va aborder ce premier sujet avec vous, en compagnie aussi de Clara Dupont-Monod et d'Hippolyte Girardot. À Rouen, la pluie est noire. Après l'incendie de l'usine Lubrisol, les autorités ont pris un arrêté pour suspendre toute récolte, ainsi que la livraison de lait, de miel, de poisson d'élevage, tandis que l'État multiplie les messages rassurants à travers la voix du préfet, qui plus il parle, plus il nous fout le jeton quand même, un petit peu.
Allô, Pascal, quelle nouvelle ! Mes écuries ont donc brûlé ! Expliquez-moi, mon chef modèle, comment cela s'est-il passé ?
cela n'est rien, madame la marquise. Cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien.
Oh, une petite plie noire à Rouen. On va voir un petit incendie.
L'orchestre de Réventura et ses collégiens. Alors, les produits frais tout autour de Rouen, là, pour l'instant, c'est foutu, jusqu'à nouvel ordre. Karine Jacquemart, dans ce cas, est-ce qu'il vaut pas mieux bouffer du produit industriel pendant quelques temps? Je pose la question.
Avec des petits bouillons Knorr.
Qui vient de loin.
Alors, je peux vous parler de la traçabilité, de tous les problèmes que ça pose en Europe. Donc, la réponse est pas forcément. Ouais. Non, là, plus sérieusement, évidemment, ça rappelle d'autres scandales, notamment, nous, on a bossé sur les scandales alimentaires ces dernières années. Le scandale Lactalis, où on apprenait les trucs au compte-gouttes, et plus on découvrait, plus on se disait, ah, quand même. Donc, la dernière fois, c'est un peu ce qu'on pensait. C'était donc pas vrai. Voilà, donc.
Vous pouvez rappeler en deux mots Lactalis?
Bien sûr, Lactalis, c'était les laits infantiles contaminés à la salmonelle, et ils venaient d'une usine qui avait déjà été contaminée quelques années avant. Et finalement, on se rend compte que les résultats des tests qui avaient été faits en laboratoire par l'entreprise, par les autorités, tout ça aurait pu finalement alerter beaucoup plus tôt. Et puis, il y a plusieurs dizaines de nourrissons qui ont été contaminés. Mais surtout, derrière, les produits devaient être rappelés des supermarchés. Et vous vous rappelez peut-être, c'était en janvier 2018. Finalement, c'était rappelé, mais pas rappelé. Les gens continuaient à en trouver. Donc, il y avait quand même des vents de panique. Nous, on n'est pas là pour jouer sur les peurs. On est là pour dire, pour rétablir de la confiance, il faut de la transparence. Là, le cas de cette usine nous redit, il n'y a pas de transparence. Effectivement, les gens en ont un petit peu marre d'être baladés. Quand on leur dit le glyphosate, c'est pas dangereux. Quand on leur dit là, circuler, il n'y a rien à voir, c'est un peu toxique, mais pas trop toxique. Malheureusement, il n'y a pas assez de confiance. Donc, c'est la responsabilité des autorités de rétablir cette confiance avec de la transparence. Je le disais tout à l'heure, contre l'opacité et puis contre l'impunité. Finalement, qui va payer le prix de quoi? Parce que ce qui se passe avec ces scandales alimentaires et environnementaux, c'est que, eh ben, la plupart du temps, c'est les citoyens qui payent l'addition. Et ils le payent de deux façons. La première, c'est un impact sur leur santé dans des cas qui concernent la santé. Et rappelons que l'Organisation mondiale de la santé, elle parle d'une épidémie de maladies chroniques, de diabète, de cancer, etc. Mmh. Je suis pas là pour alarmer, je suis là pour dire c'est une réalité, on peut lutter contre.
Mais justement, comment est-ce qu'on... Allez-y, terminez.
Juste, pardon, la deuxième façon, c'est que les citoyens, en fait, c'est eux qui payent l'addition. Quand il y a un coût pour la santé publique, des maladies qui sont créées par la malbouffe, par la santé environnementale qui n'est pas suffisamment adressée, ce sont les citoyens qui paient parce que c'est l'argent public qui est utilisé.
Mmh. Et alors, à contrario, comment ne pas tomber dans l'excès contraire et être trop parano? Là, on est méfiant, on a intégré...
Comment pas être complotiste? C'est-à-dire, comment on peut... Il est où le doute raisonnable?
En fait, il faut être basé sur des faits. Donc, c'est le travail que vous faites en tant que journaliste. Nous, on fait la même chose et c'est ce qu'on demande de la part des autorités. Par exemple, on a lancé une pétition pour demander aux autorités publiques qui font des contrôles très souvent sur l'alimentation. On leur a demandé par cette pétition de rendre publics tous les résultats de ces contrôles. C'est-à-dire qu'on part du principe que plus on donne de l'information factuelle, moins on va jouer sur les peurs et plus on peut recréer de la confiance. Transparence égale confiance. Mmh. Opacité égale un climat tout simplement qui est délétère.
Karine Jacquemart, donc directrice générale de Foodwatch France, je vous invite à aller consulter le site et faire partie, pourquoi pas, de cette communauté de watchers. Hippolyte Girardot,
oui,
un chroniqueur sain, faites une chronique saine.
Exactement.
sans
additifs, justement. Ben, je crois pas. Aujourd'hui, difficile de passer à côté de cette journée de deuil national, quand même. Faut quand même le dire, je suis obligé de le reconnaître. Je pensais que ça serait passé la semaine dernière, et en fait, non, ça continue encore aujourd'hui. On pensait avoir tout vu avec la mort de Johnny, mais je pense que Jacques Chirac le bat. Les milliers de tweets, les pages spéciales, les éditions spéciales, les journées entières de télévision, de radio sur cet homme, a quelque chose pour moi un peu d'hallucinant. Je ne sais pas si Mao est mort comme ça, mais enfin, ça ressemble à ça. Manquera évidemment toujours le vrombissement légendaire des Harley Davidson sur les Champs-Elysées. C'est sûr que les têtes de veau, sauce ravigote, ça fait moins de bruit. Bon, mais le cœur y est. Non, mais sérieux. Chirac, il tue le game, au niveau funérail. J'imagine les ex-présidents en train de voir ça et se dire, merde, mais comment je vais faire, moi? Comment je vais me démerder, quoi? Parce que si on regarde les codes de popularité publiés dans un journal qui paraît le dimanche, certains ex peuvent se demander s'ils sont vraiment pas obligés d'aller se taper des obsèques dans leur petit fief de province. C'est un peu comme quand on loue une petite salle pour son spectacle, histoire de la remplir. Franchement. Parce que de toute façon, maintenant, on est en compétition, non pas pour le meilleur président regretté, mais le meilleur second président regretté. Voilà. Mais j'ai envie de leur dire, mais c'est normal, les gars. C'est normal, tout ça. Faut pas vous en faire. C'est l'époque qui change, c'est tout. On pourrait plus, par exemple, arpenter aujourd'hui le salon de l'agriculture, tapoter le crâne d'une belle vache et dire à son proprio, ça n'est pas une vache. C'est un chef-d'œuvre. Imaginez le PR actuel en train de dire ça. Mais on lui tomberait dessus à bras raccourcis. Non, mais ce serait mieux qu'il tombe en arrêt, par exemple, devant un énorme chou planté dans une terre débarrassée de tous ses anciens pesticides, engrais, grandi à l'arrosoir et au vaporisateur, déterré en grande cérémonie au crépuscule pour être emmené dans un couffin au salon de l'agriculture. Là, oui, oui, il pourrait dire, en le voyant, ce n'est pas un chou, mais un chou-d'œuvre. Effectivement. L'époque a changé. L'époque a changé, je vous dis, les gars, avec la fin de ce grand type d'1m89 qui a quand même dû serrer des millions de mains, je suis sérieux au niveau du chiffre, au cours de son immense carrière. La même main qui caressait la tête de l'enfant et l'encolure d'un taureau, mais aussi le corps d'une sculpture khmer. Alors là, évidemment, on s'est moqué. Ici, énormément, évidemment. L'art asiatique, les arts premiers, les poètes chinois, le sumo, bah, évidemment, on se moque. Il s'en doutait, d'ailleurs. Il la ramenait pas tant que ça avec ça. Pas au début, en tout cas. Mais maintenant, et ça n'a rien à voir avec une position politique, évidemment. Moi, je me pose une question. J'aimerais connaître quelle est la sculpture khmer du PR actuel. Parce qu'on sait qu'il aime le théâtre, la musique, comme ça, la littérature, comme Giscard qui disait qu'il aimait Maupassant, Mitterrand, les livres en général. Ok, tout ça, c'est les bons élèves de cette élite. Mais je trouve que la sculpture khmer, ça raconte autre chose. Un peu comme apprendre à parler russe, quand on est lycéen en 1950. Eh ben, on s'en vante pas. Alors moi, j'aimerais aujourd'hui savoir le chef-d'œuvre devant lequel s'incline, sans s'en vanter surtout, le chef de l'État. Et je crains la réponse que je pourrais entendre, comme j'avais reçu cette réponse à ses préférences culinaires. Alors, au final, moi, je ne suis pas sûr de préférer le cordon bleu à la tête de veau.
Merci, Pauline Girardot, pour cet hommage à votre manière. Vous écoutez France Inter, la directrice générale de Foodwatch France est en notre compagnie, Karine Jacquemart. Je demande à la technique à Anne-Laure Cochet de diffuser Biche, le laboratoire. C'est de la dream pop, de la néopsyché. Quelque part dans un espace-temps où les lignes de basse de cette pop made in France bien lustrées trouvent leurs accointances dans le travail des grands arrangeurs. C'est lui les Arocs récemment.
Mélanie Bauer.
Oui, donc c'est de la dream pop. Donc n'écoutez pas ça au volant. Ça peut être dangereux. Biche, le laboratoire, c'est sur la playlist France Inter. Ouais. Programmation musicale, Djoubaka. Karine Jacquemart est avec nous. Elle a travaillé comme humanitaire pour Action contre la faim, notamment. Elle a travaillé à Greenpeace et aujourd'hui, elle est directrice générale de Foodwatch France, une ONG 100% citoyenne, contre-pouvoir au mastodonte de l'agroalimentaire qui nous éclaire chaque jour sur, bah, par exemple, qu'y a-t-il dans le bouillon Knorr Cube ? Eh ben, tout sauf de l'huile d'olive.
Et dans tes petits oursons Lulu ?
Eh ben, beaucoup, un tiers de sucre, elle a dit.
Bravo.
Et voilà. Elle est un petit peu lanceur d'Arlette, comme il dit.
Comme Juliette a dit.
Comme Juliette a dit, et repris par Guillaume Meurice.
Oui, eh ben, journée d'hommage national aujourd'hui, puisque je vous rappelle que Valéry Giscard d'Estaing est toujours vivant. Hein, ça fait un choc, mais c'est comme ça. La Ve République, c'est la rencontre d'un homme et d'un peuple, disait De Gaulle. C'est aussi la rencontre d'un homme et du compte bancaire d'un peuple, aurait précisé Jacques Chirac. Jacques Chirac qui n'est plus, Patrick Balkany qui est en prison, Ophélie Winter qui est au RSA. On a complètement flingué ma jeunesse, que ce soit clair et net. Manquerait plus que j'apprenne que les passages de Juliette Arnaud dans le Morning Live étaient bidons pour que je me mette à chialer immédiatement. Ne dites rien, s'il vous plaît Juliette, ça m'angoisse. Bon, en tout cas, le peuple de France pleure son ancien président, je le sais, parce que je l'ai rencontré, ce peuple. Allez, on commence avec une dame et une analyse politique pointue.
Moi, je l'aimais bien parce que c'était un homme qui avait d'abord fière allure. Il était beau. Voilà.
Est-ce que c'est important d'être beau en politique ?
Ah, je crois.
Ouais.
Je crois. Et d'être grand.
Faut être grand et beau. Ouais. Il n'y a pas d'avenir pour les petits et moches.
À mon avis, non, ça fait pas le point.
Un hommage à Jacques Chirac ne peut pas commencer autrement qu'avec une petite saloperie sur Sarkozy. En creux, comme ça, c'est évident. Sinon, il manque quelque chose. Il faut être grand et beau pour être président. Voilà. Il paraît qu'Éric Zemmour veut se présenter. Bon. Hein, bon. On a dit pas le physique, pas les nazis. Pas les habits, pardon, excusez-moi. Mais hommage à Chichi. Et ce qu'on retient de Chirac, c'est évidemment sa modernité.
Oui, c'est une autre façon de gouverner, je dirais.
Et qu'est-ce que vous retenez de son action politique, finalement?
Bah, je dirais qu'il arrivait quand même à gouverner, à être, faire avancer des. C'est vrai que depuis, il y a eu très très peu de. Je dirais très peu de. Comment ? D'avancement.
Quelle réforme de Chirac vous retenez particulièrement ?
Je me souviens plus, franchement. Et puis,
Non. Puis, c'est vrai qu'on reproche à Chirac les emplois fictifs, mais le premier, c'était quand même le sien. Hein. On se souvient quand même du principal, j'exagère un peu, l'opposition au Front National, après avoir copié un bon nombre de ses idées. Une Gad Elmaleh, hein, comme on appelle dans le milieu du plagiat. Alors, moi, je me souviens aussi d'une réforme qui m'a quand même beaucoup plu. Et ça tombe bien pour ce monsieur, c'est la pire décision qu'il ait prise.
La suppression du service militaire.
Ça, c'est une mauvaise chose ?
Oui, parce que c'était une phase d'intégration pour tout le monde et d'intégration sociale.
Vous regrettez la corvée de chiottes ?
J'ai jamais faite.
C'est vrai ?
J'étais à Ballard.
Ah, mais vous étiez un planqué, c'est pour ça ?
Oui.
Oui, bah d'accord, ok, je comprends l'intégration sociale, mais pour les autres, essentiellement pour ceux qui n'étaient pas pistonnés, pour que les fils de prolos s'intègrent socialement, mais entre eux. Voilà, ça c'est important, sinon ça changeait rien. Il y avait ceux qui foutaient la merde dans les ministères et ceux qui la nettoyaient dans les casernes. Mais ce monsieur, il retient autre chose de Chirac.
C'est une photo que vous devez connaître, qui est quand il est sous le capot d'une 403, en train de réparer une voiture que je présume être exacte. Et pour moi, l'image, c'est celle de cet homme-là qui était capable de, manifestement, de mettre les mains dans le cambouis et en même temps, je dirais, de faire son boulot de chef d'État.
Est-ce que c'est pas de la communication politique, ça ?
Je ne crois pas, parce que je crois que la photo à l'époque, si vous la connaissez, elle était authentique.
Elle est authentique. Alors je l'ai là pour ceux qui regardent en vidéo. Elle est vraiment authentique. À mon avis, c'est pas de la com politique, parce que à chaque fois qu'on répare sa bagnole, on le sait, on met un costard déjà, hein, une chemise blanche, et on fume des clopes évidemment au-dessus.
C'est connu.
Bien sûr, c'est vraiment quelque chose qui est très conseillé. Puis après, il mettait son bleu de travail et puis il allait au Conseil des ministres. Ça, c'est vraiment pour ça que les gens l'aimaient, hein, Chichi. Il était comme ça et les gens, donc étaient fans. Hein.
J'aimais l'homme, c'était un homme du peuple, proche, il buvait de la bière, il mangeait des pommes, comme moi, comme tout le monde.
Est-ce que c'était un homme du peuple ou est-ce que c'était un homme qui se faisait passer pour un homme du peuple ?
Mon intime conviction, c'est que non, il était réellement proche du peuple.
Parce qu'il l'a quand même un peu arnaqué le peuple de temps en temps.
Mais quel homme politique n'a pas arnaqué le peuple ? Quel homme politique n'arnaquera pas le peuple ?
Et ça, c'est une bonne leçon pour Emmanuel Macron, s'il nous écoute. Tu peux continuer à arnaquer les gens, ça ils sont habitués, il n'y a pas de problème, ils savent que t'es là pour ça. Mais il faut que tu sois sympa, il faut que tu sois mamine, d'accord ? Tu bouffes des pommes, tu bois de la bière, tu tâtes le cul des vaches et tu claques des bises et tu seras comme Chirac.
Un escroc honnête.
Ça c'est beau, un escroc honnête.
Ah c'est magnifique.
Comment on peut être un escroc honnête ?
C'est très simple, on est basiquement honnête, mais quelque part, on a un petit côté qu'on qualifiera de vicieux sympathique.
Et voilà, c'est ça qu'on aime, un vicieux sympathique, un pervers mignon, comme on pourrait dire, un truand, mais coolos. Hein, Chirac, il était comme ça.
C'est ça.
Il voulait être honnête, mais finalement, dès qu'il y avait un peu de pognon qui traînait, il le prenait.
Ah bah, je pense qu'on est tous un petit peu pareil. Hein.
C'est vrai ? Vous êtes comme ça ?
non.
Et ne jamais avouer, surtout. Ça, c'est le plus important, c'est la base dans le milieu. Chirac, il se faisait prendre la main dans le pot de confiture, il faisait croire que c'était la main de Juppé. C'est ça qu'on a aimé, c'est vrai, exact, qu'on a vraiment aimé chez lui, jusqu'à la fin de sa vie, où il a fini par perdre la mémoire, exactement comme le peuple français.
Guillaume Meurice, merci. Si Chirac était un escroc net, vous êtes un subjectif objectif, donc hein, c'est ça. Merci.
Ça me va, ce sera mon épitaphe.
Très bien. Allez, abordons cet autre sujet avant d'écouter Clara Dupont-Monod avec Karine Jacquemart, qui est, je rappelle, directrice générale DG, on dit, de Foodwatch France. Deux ONG réclament la transparence des agendas politiques pour rendre public leur rencontre avec les lobbies. C'est bien connu, les lobbies se cachent pour nous nourrir. Cette transparence.
Oh, ah ben c'est lundi, hein. Ouais, il y a eu le week-end pour bosser. Ouais, donc,
je la prendrai, ça, là, je...
Beaucoup trop, prenez-la, c'est cadeau.
Merci.
Beaucoup trop en forme le lundi. Moi. Cette transparence est déjà en vigueur à la Commission européenne et au Parlement européen. Mais pas au niveau national, où Transparency France et le WWF demandent à nos élus de vivre leur idylle avec les représentants d'intérêt au grand jour. Sinon, on n'aura plus qu'à prendre, nous citoyens, des mesures radicales.
Vous êtes importuné par les mouches ? La solution, placez votre enfant sur le bord de votre fenêtre ou sur le seuil de votre maison. Grâce aux pesticides contenus dans ses cheveux, les mouches n'entreront plus dans votre maison et trépasseront instantanément. L'enfant tue mouche, une invention sponsorisée par le LPG, le lobby des pesticides grolandais.
Merci Groland. Alors, avant d'aborder cette question donc de la transparence de l'agenda politique avec les lobbies, les représentants d'intérêts, vous êtes une ONG, Foodwatch France, 100% indépendante, citoyenne, mais où vous trouvez les sous qui vous financent ?
Ben c'est ça, c'est les citoyens qui se disent que c'est intéressant de rassembler nos forces parce qu'il y a que comme ça qu'on peut un peu lutter contre les mastodontes. Donc David contre Goliath, c'est ça. C'est chaque citoyen qui donne 5 euros, 10 euros par mois et la somme de tout ça fait que on se donne les moyens de faire les enquêtes que l'on fait, de dénoncer, de porter des combats comme l'interdiction du glyphosate et beaucoup d'autres.
Et de vous attaquer au CETA aussi, etc. Hein,
absolument.
Aux grands accords. Donc ça veut dire si ces deux ONG d'abord, j'imagine que peut-être vous rejoignez cet appel à la transparence. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'inconvénient à ce que les politiques discutent, rencontrent des lobbies, à condition qu'ils le disent, ou il faudrait déjà pas du tout rencontrer les lobbies. Comment ça marche ?
Non, bien sûr que si. Là encore, c'est une question de transparence. Donc, des lobbies, moi je leur dis toujours, les lobbies, ils défendent un intérêt privé de l'entreprise qu'ils représentent. Ok, c'est leur boulot. Maintenant, le problème, c'est que personne n'en sache rien. Et le problème, c'est que les responsables politiques rencontrent beaucoup plus de lobbies des industries que de représentants de la société civile, par exemple, pour influer sur une décision. Et c'est toute la question de l'intérêt privé versus l'intérêt général. J'étais il y a pas longtemps dans un débat avec une personne de Total, pour le coup, et je lui disais exactement ça, c'est vous pouvez défendre l'intérêt privé de votre entreprise dans la limite où c'est transparent et où à partir du moment où ça va marcher sur les pieds de l'intérêt général, vous devez avoir une ligne rouge. Mmh. C'est-à-dire que quand on défend un pesticide pour lequel on a suffisamment d'études pour savoir que c'est dangereux pour la santé, il est urgent de s'arrêter.
Or, mais ils l'entendent, ça, quand vous parlez avec
eux ? Non, mais pas du tout. Évidemment, non, mais c'est mon rôle de le dire, vous voyez ? C'est mon rôle de le dire.
Oh, vous avez bien
l'importance
de participer.
Non, mais c'est pas ça. Non, ça va beaucoup plus loin. C'est que quand on dénonce publiquement, c'est la même stratégie que tout à l'heure, c'est que quand on dénonce publiquement en fait leurs agissements, ils sont obligés de faire un peu plus attention. Et donc, on a des exemples concrets. Monsanto, pour ne citer qu'eux, qui sont quand même le cas d'école du lobby et de tout ce qu'on peut faire avec ça. Vous vous rappelez de ce fichier-là qu'ils ont sorti avec des personnes.
Ils avaient fiché les journalistes.
Ils ont fiché les personnes qui étaient sur le dossier glyphosate. J'ai l'honneur et le privilège avec la directrice de l'information de Foodwatch d'être très bien notée sur leur fichier comme empêcheur de tourner en rond senior, et c'est très bien, mais il y a d'autres exemples. On a fait un article sur Coca-Cola qui finance la science. Coca-Cola qui était sponsor platine. C'est pareil, un platine génial. Platine de quoi ? De la présidence de l'Europe. Donc, il faut savoir que la présidence de l'Europe autorise des sponsors privés. Donc, il faut mettre des règles. Il faut, à un moment donné, tracer une ligne entre les décideurs politiques et les lobbies d'intérêts privés. Et il faut mettre de la transparence pour les empêcher de faire n'importe quoi. Il y a du boulot, mais on avance.
Mais même au Parlement européen, les lobbyistes sont autorisés à rentrer, pas dans l'hémicycle, mais en tout cas autour de l'hémicycle. Ils ont même des badges.
Moi, j'avais été faire une chronique, ça m'avait marqué. On m'avait dit, tel badge, je sais plus la couleur, mais c'est les lobbyistes, en fait. Ils sont identifiés, ils sont là.
Au moins, c'est transparent, ça,
et puis,
alors.
Au Parlement européen, la loi, elle est passée. Ils sont obligés de déclarer dans leurs agendas.
Parce que la pression citoyenne, et notamment la pression citoyenne sur les décideurs politiques, oblige peu à peu à mettre ces règles. Et donc, on doit continuer pour qu'il y ait effectivement de plus en plus de règles. Et la semaine dernière, on diffusait encore une lettre de l'industrie chimique, l'industrie pharmaceutique, etc., qui envoyait une lettre au ministère allemand pour leur dire, la France vient d'interdire l'additif E171, mais vous devez pas l'interdire surtout. Donc des lettres comme ça, nous, quand on arrive à mettre la main dessus, on les publie. Et ça leur montre qu'à un moment donné, il y aura moins d'impunité. Mais c'est vrai que c'est un travail un peu de fourmi. Mais
c'est ce qu'on appelle aussi le name and shame, c'est-à-dire nommer ces marques pour leur taper la honte, comme on dit.
Justement, un tout petit moment de name and shame, c'est quoi les pires lobbies auxquels vous avez fait face?
Comment vous dire? Il y en a partout, en fait. En fait, partout.
Monsanto, apparemment, déjà, c'est...
Oui, Monsanto, mais parce qu'ils sont très connus. Puis j'avoue, ils ont quand même accumulé les idioties, là, depuis des mois, entre les Monsanto Papers, etc. Il y a eu beaucoup de choses. Mais il y a le lobby du sucre, il y a le lobby de l'industrie agroalimentaire en tant que telle, qui avait dépensé 1 milliard d'euros en 2010 pour bloquer un vote au Parlement européen pour qu'on ait un logo nutritionnel obligatoire. Des années après, on est en train de ramer avec le Nutri-Score.
Ça fait cher,
ça aurait pu
le logo,
être décidé il y a des années. Et là, on voit que sur cet additif dioxyde de titane, E171, qu'on retrouve dans l'alimentation, finalement, c'est le lobby de la chimie qui embête le plus là, au niveau européen, parce qu'ils se disent que si c'est interdit dans l'alimentation, ça risque d'être ensuite interdit dans les autres secteurs. Donc des lobbies, il y en a partout. Et c'est vrai que du coup, il faut faire David contre Goliath. Mais ça marche, si on réunit nos forces, c'est possible.
Il y en a des sympas aussi quand même, avec des gens avec qui on peut discuter.
Non, de toute façon, nous on est toujours ouverts au dialogue, ouais. À condition qu'ils aient un truc intéressant à dire. Nos demandes, pour le coup, elles sont transparentes, elles sont claires et elles sont dans l'intérêt général.
Foodwatch France donc, allez vous renseigner si vous ne connaissez pas encore. Clara Dupont-Mono. Le lobby de la littérature.
Le lobby de l'intelligence. Ça, on y est. On est tentaculaire. Alors, l'actualité, sans conservateur, bien sûr, c'est la disparition de Jacques Chirac. On y revient toujours. Sa disparition, en fait, elle résume un peu l'absurdité de notre condition humaine. C'est-à-dire accéder au sommet, diriger une nation. Tout ça pourquoi? Pour finir en poussière, sous les yeux d'Alain Juppé. À un moment, c'est à la fois infondé et pas logique. C'est absurde, en fait. C'est absurde. Et cela tombe bien, car j'ai ici un livre, Karine, qui est un peu le Coran de l'absurde, la Torah du non-sens, quelque part. Ce livre s'appelle « Data biographie » et il est signé Charlie Delwart. Est-ce un hasard? Mais ce monsieur est belge.
Delwart, ça c'est belge.
C'est belge. Il est installé à Paris, comme tant d'autres. Il a le même projet secret d'infuser notre mental français afin de le dérégler. Hein, ça c'est un... Soyons un peu complotistes.
Un perturbateur endocrinien.
Exactement.
De la littérature.
Exactement. Et en fait, Charlie Delwart, il est parti d'un constat assez simple. Il y a sur la Terre 400 000 lions pour 60 millions de chats domestiques. Et il y a aussi 900 000 buffles africains pour 1,5 milliard de vaches. Bon. Il a été pris d'un... Vous allez voir. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il est pris d'un vertige parce qu'en fait, ces quelques chiffres disent à eux seuls notre désir de civilisation et ce que nous avons perdu de la vie sauvage. La comparaison d'éléments simples révélait tout à coup une situation complexe, écrit-il. Alors, il s'est demandé pourquoi ce genre de raccourci statistique ne s'appliquerait pas à sa petite vie. À une époque du big data, il s'est dit « je vais faire du little data ». Alors, ce faisant, il marche dans les pas de tous les auteurs comme Georges Perec, qui ont toujours adoré mixer mathématiques et littérature. Ce qui donne une mais ahurissante mise en chiffres, schéma, pourcentage de sa toute petite vie. Alors, par exemple, vous avez un tableau sur la page de gauche avec des courbes qui indiquent la moyenne des heures quotidiennes passées debout, assis ou allongé de sa naissance à ses 40 ans. Il l'a vraiment calculé. Il a calculé combien de cigarettes il a fumé avant l'arrêt du tabac, le 20 décembre 2016. Il y en a 189 636. Et combien il en a fumé depuis l'arrêt? Bon, il y en a 215. Parfois, la page est remplie de petits ronds noirs, ce sont les heures déjà vécues, 385 440, et de ronds blancs, les heures qui lui restent à vivre, selon les statistiques, 310 104. Il y en a partout. Et puis, à un moment, un petit miracle se produit, c'est qu'à partir de ces calculs, par définition objectif, froid, eh bien se dessine quelque chose de tiède et de subjectif qu'on appelle une intimité. Alors, Bien sûr, en parlant d'intimité, vous avez à un moment un grand rond blanc et ce sont les 96 360 fois où il a été aux toilettes en 40 ans, il a calculé. Mais l'intimité n'est pas une affaire de cabinet, je ne vous apprends rien, chère Karine. Et l'on découvre un homme inquiet, au pourcentage de bagarres assez peu élevé. Il a vécu 18 ans dans un environnement de gauche, 26 dans un environnement de droite, ce qui fait de lui, je cite, le chef centriste de la coalition de ma vie. Il est plutôt ouvert d'esprit, puisque parmi ses ex, 40% avaient les cheveux blonds, 40% châtains, 20% bruns, 0% gris-blanc, là où ils auraient que remis 99. Et mais ouvert d'esprit, puisque la position du missionnaire représente seulement 30% de ses positions sexuelles utilisées dans sa vie de couple, ce qui laisse quand même un large panorama. Mais vous voyez, le côté infaillible des chiffres dessine l'arbitraire, le goût, en fait, dessine une intériorité. Et d'ailleurs, en face de ces données, tout ça très calcul, très maths, eh bien, Charlie Delwart écrit des petits textes émouvants et très drôles qui racontent sa dépression, qui parlent de sa famille, de son enfance, du Japon, de Gilles Deleuze, et qui parfois se livrent à des réflexions que n'aurait pas renié un Jean-Marie Gouriot dans ses brèves de comptoir. En voici une, Charlie Delwart écrit « Je me demande si, devant plusieurs colons alignés sur une table, je reconnaîtrais tout de suite le mien. » Bref, vous l'aurez compris, 100% de mon cœur a vibré pour ce livre, dont je vous redonne les références. Data biographie de Charlie Delwart est paru chez Flammarion.
C'est sûr, il est belge.
Ben oui.
Merci beaucoup Clara Dupont-Monod pour ce choix littéraire enthousiasmant. Vous pouvez réécouter bien sûr la chronique en podcast et sur franceinter.fr. Juliette, vous avez un sujet à proposer à Karine Jacquemart.
Oui, alors voilà, c'est une équipe de scientifiques new-yorkais qui a enquêté pendant 14 ans sur 230 000 sujets hommes et femmes dans le monde entier. Et voilà, c'est la double peine pour les pessimistes. Non seulement les avions qui s'écrasent dans le monde, eh ben c'est sur leur pompe, mais en plus, ils meurent plus vite et de maladies horribles. Quelle alternative alors reste-t-il pour les adeptes du verre à moitié vide ?
Si on accueillait les idées par, je sais pas moi, et pourquoi pas, tiens, ou avec plaisir, ça serait vachement moins plombant psychologiquement, non ?
Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire.
S'obliger à être enthousiaste, merci, quoi, bienvenue chez les scouts.
Non, mais s'obliger, non, mais il a raison. La politique, c'est du cœur à l'ouvrage.
Exactement.
Il faut essayer d'être avec.
Bah si, oui, d'accord, bah oui, s'obliger... Bah alors on vote.
On vote ?
Bah oui, on vote pour, on va voter pour s'obliger à être enthousiaste. Bah, on vote pour l'enthousiasme obligatoire. Qui vote pour l'enthousiasme obligatoire ?
Bah voilà, on vote.
D'accord, donc c'est adopter la majorité. Enthousiasme obligatoire.
Voilà, c'était un extrait du formidable « Tout ce qu'il me reste de la Révolution », le film 2, et avec Judith Davis. Cette histoire de scientifique new-yorkais qui révèle que le pessimisme conduit... plus rapidement à la mort, et en tout cas d'abord à la
maladie. Et que l'optimisme prolonge la vie.
Et, qu'au
contraire, et réduit le nombre de raies cardiaques.
Ça nous a fait qu'on s'est dit, mais alors, sauf que pour nous, l'idée de l'optimisme ou du pessimisme, ça relevait de l'inné plutôt que de l'acquis. Alors, la question, Karine, c'est est-ce qu'on peut faire le taf que vous faites sans une capacité supérieure à l'espoir ? Et alors, à ce moment-là, est-ce que l'espoir, c'est comme la mémoire, un genre de muscle qu'on peut entretenir, qu'on peut travailler ?
Moi, je crois que c'est mon instinct de survie, en fait, face à certaines choses qui se passent dans le monde, etc. J'ai besoin d'être dans l'action, en fait. Je ne peux pas me résigner à accepter l'inacceptable. Et par ailleurs, dans les situations humanitaires, dans les pays en Afrique et tout, tout n'est pas noir. On rencontre aussi, quand on se confronte au problème. Pardon, c'était un jeu de mots. On rencontre aussi avec vous. Je peux pas faire ça. Je suis d'accord. J'aurais pas dû.
Pris des risques. Hein.
On rencontre.
Moi, surtout demain, on a Michel Leb. Alors.
Ouais, c'est ça. Je me suis prise pour Michel Leb. Pardon. J'ai pris des claques d'humilité sur le terrain et je continue à en prendre face à des gens qui se battent pour leurs droits, qui prennent des risques, etc. Donc, et puis il y a aussi les choses les plus belles dans l'humanité. Donc voilà. Donc moi, je me raccroche à la partie pleine du verre. Mais on se bat d'autant plus, on dénonce d'autant plus fort ce qu'on dénonce aujourd'hui, que c'est pas une fatalité. C'est-à-dire que tout ce que je vous disais depuis tout à l'heure, j'ai essayé de le dire, on ne joue pas sur les peurs, on n'est pas là pour être alarmiste, mais par contre, il faut en parler honnêtement, il faut en parler avec courage, de ces problèmes de démocratie avec le CETA, mais aussi tout simplement dans l'alimentation, parce qu'il y a des solutions. Les solutions, c'est qu'à un moment donné, les responsables industriels doivent un peu s'arrêter de faire n'importe quoi et prendre leurs responsabilités, et les responsables politiques doivent prendre des décisions, ce qui est leur boulot, pour protéger les droits des citoyens et de la planète. Et on peut les obliger.
Et cet article précise, et ça va vous concerner, qu'une personne optimiste pourrait avoir tendance à adopter un mode de vie plus sain. Et donc je pense que la boucle est bouclée avec Foodwatch France qui veille aux grains et à ce qu'il y a dans les grains que nous mangeons. Karine Jacquemart, Juliette Arnault va vous soumettre à un petit questionnaire.
Qu'on appelle le questionnaire de Jupi-Proust, c'est-à-dire qu'il y a un peu de Proust et beaucoup de par Jupiter.
On y va ?
Allez, on y va. Sur l'échelle de 0 à 10 de Greta Thunberg, vous vous situez à combien ?
8.
Bien. Sur l'échelle de 0 à 10 de Donald Trump, à combien vous situez-vous ?
0.
Parfait.
Où sont les deux qui mentent ?
Mais parce qu'il y a encore mieux que Greta Thunberg, je suppose. Enfin, il va y avoir
on
mieux.
On peut toujours faire mieux, plus engagé. Et puis Greta, elle n'est pas à 10 non plus en même temps. Elle fait plein de choses super et on a encore plein de choses à faire justement pour que le monde change. Mais par contre, les critiques sur Greta Thunberg, là, c'est insupportable.
Bien d'accord. Vous venez d'intégrer le monde des super-héros. Quel super-pouvoir avez-vous ?
L'optimisme ?
Je croyais que c'était un muscle. Faut qu'on se mette d'accord. À votre avis, Theresa May, à part se marrer devant sa télé en regardant Boris Johnson se planter, elle fait quoi de ses journées ?
Je suis pas sûre qu'elle se marre beaucoup, mais peut-être qu'elle regarde Trump.
Si elle boit du thé Lipton, c'est pas bon, par exemple. Elle est très dégueulasse dans le thé Lipton.
Ça.
C'est Unilever aussi.
C'est Unilever aussi.
Ah ouais, non, c'est la même marque, c'est pas bon. Il doit y avoir du sucre. Gros malheur. Vous êtes un homme blanc, hétérosexuel et catholique. Quelle astuce pour ne pas être exterminé ?
J'ai du mal à me projeter. J'ai du mal à me projeter.
Alors, vous allez peut-être vous projeter là-dessus. Vous êtes riche, puisque vous êtes dans un TGV. Néanmoins, un enfant se met à hurler. Vous tenez combien de temps avant de gifler ses parents ?
Pas longtemps. Non, je plaisante.
Comment vous réagissez dans ces cas-là ? Vous allez
voir. Je leur explique qu'il faut faire attention à ce qu'il y a sur les emballages et à ce qu'ils donnent à leur enfant. Ça va nous occuper quelques minutes déjà.
Ah oui, c'est vrai, ça c'est un bon truc.
Ouais, peut-être ça peut servir de cantine pour l'enfant.
Ou alors vous lui donnez des trucs dégueulasses à manger, là, les oursons lus, comme ça il meurt.
Je donne aux parents des pétitions à signer, surtout pour qu'ils prennent conscience.
Alors, on a un petit QCM, si on faisait une chanson sur le CETA, la première rime serait caca, cancrela ou pas de loi, pas de débat.
Pas de loi, pas de débat. Hein ?
C'est
une dernière,
j'avais pensé. Vous n'êtes plus à la tête d'une ONG, tous les gouvernements vous réclament. Vous devez choisir celui d'Edouard Philippe, celui de Bachar el-Assad ou celui de Bolsonaro.
Eh bien, je crée le mien, je pense.
Elle a fui.
Bonne réponse de Karine Jacquemart de Foodwatch France sur France Inter. Merci beaucoup,
merci à vous.
Karine, d'avoir passé ce moment avec nous. C'était passionnant. Donc, je renvoie évidemment à Foodwatch France et à toutes les arnaques que vous soulevez aussi. Merci à tous. Les amis, on va se retrouver demain, donc en compagnie de Michel Leeb.
Fais l'accent belge et je t'explose ta gueule, t'as compris ?